Europe 1. C'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Patrick Artus.
Oui, bonjour.
Chef économiste de Natixis, vous publiez 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Alors c'est un constat qui est souvent fait dans le débat public, les salariés n'ont pas bénéficié des gains de productivité réalisés depuis les années 80-90, beaucoup moins que les actionnaires, mais vous écrivez que si ce constat est vrai en moyenne dans les pays de l'OCDE, pas vraiment en France, il y a une exception française?
Oui, franco-italienne d'ailleurs. Hein. Pour l'ensemble de l'OCDE, et c'est particulièrement criant aux États-Unis, au Japon, mais maintenant en Espagne, depuis longtemps, depuis l'ère Thatcher au Royaume-Uni, en France et en Italie, on n'a pas cette déformation du partage des revenus, ce qui évidemment complique le débat. Il faut évidemment réfléchir à cette norme du capitalisme. Globalement, le capitalisme, depuis 30 ans, n'a pas donné aux salariés les salaires qu'ils auraient dû recevoir. Les salariés ont reçu à peu près que 40% des gains de productivité, alors qu'ils auraient dû recevoir la totalité des gains de productivité. Mais c'est pas vrai en France et en Italie, où à l'épaisseur du trait près, les salariés ont reçu à peu près les gains de productivité. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de pauvreté ou de bas salaire dans ces pays, hein, c'est pas mon propos. Il y a évidemment un problème de pauvreté, il y a un problème de bas salaire. D'autant plus, et c'est des calculs que je montre aussi dans le livre, que si on soustrait de l'augmentation des salaires la hausse du coût du logement, hein, qu'on soit locataire ou propriétaire de son logement, ben on ampute une grande partie des gains de pouvoir d'achat. Donc il y a bien un problème de bas salaire aussi en France et en Italie, mais on peut pas être dans le même débat qu'aux États-Unis. Si nous avions ce matin ce débat au sujet des États-Unis, on n'aurait aucun état d'âme, on demanderait une hausse très forte des bas salaires, une hausse très forte du salaire minimum. On ne peut pas faire ça en France. Donc la solution française est plus compliquée que la solution américaine ou japonaise à ce problème de bas salaire.
C'est-à-dire qu'on a des inégalités assez fortes, mais qui sont compensées ou même assez largement compensées par notre système redistributif?
Oui, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, je crois. On va avoir, évidemment, après cette crise, un débat qui a commencé sur le partage des revenus, sur les inégalités, c'est parfaitement légitime. Simplement, il faut que ce débat... D'abord, il faut pas, ce qu'on entend parfois, il faut pas parler de la France en faisant semblant que ce sont les États-Unis, parce que parfois, on a cette mauvaise compréhension-là. Et ensuite, il faut bien voir le problème français. Nous avons des inégalités de revenus avant les politiques redistributives, c'est-à-dire avant les impôts, les transferts sociaux, les aides aux plus pauvres, qui sont très élevées, qui sont plus élevées qu'aux États-Unis, ce qui est tout à fait incroyable. Ensuite, nous avons des politiques redistributives qui sont les plus élevées aussi de l'OCDE. Ce qui fait que quand on regarde les inégalités après les politiques redistributives, elles sont très basses. Et donc, il faut bien réfléchir comme ça. C'est-à-dire que je crois que le problème de la France, contrairement à ce nombre de propositions qui circulent, ce n'est pas d'augmenter encore les politiques redistributives, parce qu'on se heurte à une limite qui est la capacité à les financer. On finira par des taux d'imposition totalement décourageants qui stériliseront l'économie. Notre problème, c'est de réfléchir à ce qui fabrique les inégalités de revenus avant la redistribution. Et essentiellement, c'est que nous avons peu d'emplois. La cause essentielle de cette inégalité avant redistribution, c'est qu'il y a que 65% des Français en âge d'avoir un emploi qui ont un emploi, alors que dans la plupart des pays normaux, entre guillemets, on est entre 75-78%. Si on avait 10% en plus des Français de 20 à 65 ans, disons, qui avaient un emploi, nous aurions beaucoup moins d'inégalités, et donc nous aurions beaucoup moins besoin de corriger les inégalités. Donc je crois que toutes les propositions de surcharge fiscale qui circule aujourd'hui, qui ne s'intéresse pas en fait à la cause profonde des inégalités, qui est la faiblesse du nombre d'emplois, sont dans l'erreur. Et malheureusement, évidemment, on voit que ce débat est parti plutôt sur l'idée qu'il faut augmenter les impôts, plutôt que sur le fait qu'il faut créer des emplois, que c'est ça qui est essentiel si on veut réduire les inégalités.
Oui, enfin là, le débat d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'en limiter la suppression le plus possible, Patrick Artus.
Oui, alors il y a une question liée à cette crise, mais je veux dire, dans le débat de fond, vous voyez que ce qui est les demandes, c'est une demande de remettre des surcharges fiscales sur les personnes les plus riches aux revenus les plus élevés. Alors il peut y avoir là-dedans du symbolique, mais je veux dire, du point de vue de l'économie, faisons très attention, parce que nous avons ce cercle vicieux de la France, où comme nous surtaxons par rapport aux autres pays, nous détruisons de l'emploi, et en détruisant de l'emploi, nous fabriquons des inégalités. sociétés. Donc il faudrait essayer dans tout ce qu'on va faire de bien réfléchir à cela et de se dire que, mais ceci n'est pas du tout contradictoire avec votre remarque, hein, que notre problème essentiel, et d'autant plus qu'il y a cette crise, ça va être de créer des emplois. Hein. Et donc toutes les politiques économiques doivent avoir cette réflexion qui est, est-ce que cette politique crée des emplois ou pas ? Et donc il faut faire très attention à ne pas proposer des politiques économiques dont on sait qu'elles détruisent de l'emploi.
Alors, quels sont les mécanismes que vous proposez qui seraient susceptibles de créer des emplois et de remonter le taux d'emploi dont vous avez souligné la faiblesse en France ?
Alors, je dirais un mot après du problème de financement. Si on avait une liberté budgétaire totale, ce qui est le cas cette année, parce que la Banque Centrale Européenne achète tous les déficits publics et toutes les dettes que nous émettons, mais qui ne sera peut-être pas le cas très durablement, qu'est-ce qu'on ferait ? Ben, on continuerait à baisser le coût du travail au niveau des plus bas salaires. Alors on a enlevé pratiquement toutes les cotisations sociales au niveau du SMIC, mais il faudrait sans doute aller plus loin. Et peut-être, cotisations sociales, ça peut être négatif. Hein. C'est-à-dire que l'État donne de l'argent à des entreprises qui embauchent des personnes peu qualifiées. Notre problème de chômage, c'est surtout un chômage des peu qualifiés. Hein, le taux de chômage des peu qualifiés, juste avant la crise, il était de 14% à peu près. Hein. Donc il faudrait continuer cette politique de baisse du coût du travail peu qualifié, sans baisser le SMIC, bien sûr, au contraire. Hein. On voit bien qu'il y a même une demande de monter les bas salaires, mais en continuant à allégeant les charges des entreprises, y compris à nouveau avec des charges négatives, quoi, qui sont une aide aux entreprises. Ensuite, je crois qu'évidemment, il y a la question que tout le monde a à l'esprit des professions. Vous parliez santé juste avant, hein, des professions oui. Où typiquement il y a un problème de recrutement et un problème d'attractivité pour les jeunes, avec des problèmes de rémunération trop basses, hein, dans la santé, dans l'éducation. On a eu ce débat dans l'éducation avant la crise. C'est des professions où on sait qu'on paye entre 20 et 30% de moins que les autres pays de l'OCDE. Là, c'est du côté de l'État, hein, c'est plutôt moins du côté du secteur privé. Et donc là, bien sûr, il faut, à mon avis, réfléchir à monter ses salaires et considérer qu'il ne s'agit pas d'une dépense publique, il s'agit d'un investissement public. Hein. Attirer des jeunes qualifiés et motivés dans la santé et l'éducation, ça fait de la croissance, quoi. Donc c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et après, il reste la question des personnes fragiles. Hein, on a vu dans cette crise la grande disparité entre des personnes qui étaient relativement protégées et des personnes fragiles. C'est une réflexion qu'on avait déjà avant. Et je crois qu'il faut réouvrir un débat probablement sur une forme de revenu universel en mettant de l'ordre dans toutes les aides. Hein. Il y a des quantités incroyables que vous connaissez d'aides sociales pour les personnes aux revenus les plus faibles. C'est un bazar complet. Les règles ne sont pas les mêmes. Ça veut dire à chaque fois un dossier différent avec des règles d'attribution différentes. C'est totalement infernal pour les personnes qui ont besoin de ces aides. Donc il faut unifier toutes ces aides dans une espèce de revenu universel pour les personnes fragiles. Voilà. Si on fait ça, on aura fait un grand progrès, quoi. Hein. Donc un revenu unifié, une aide unifiée pour les personnes les plus fragiles. Des aides à la création d'emplois, surtout pour les moins qualifiés, et des hausses de salaire dans le secteur public, là où il faut attirer des jeunes de qualité. Et alors, en disant tout ça, j'ai totalement, évidemment, ignoré le fait que tout ça, c'est des charges pour les finances publiques. Et donc,
alors,
on a évidemment un problème de financement de tout ça.
Évidemment, on va parler des déficits et la dette et des moyens de financer tout ça. Après une pause dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec l'économiste Patrick Artus, avant d'évoquer les montagnes de dettes que nous sommes en train d'accumuler, je voudrais votre regard, Patrick Artus, sur cette ébauche de solidarité européenne inédite avec une proposition franco-allemande d'emprunter sur les marchés au nom de l'Europe tout entière, de créer un endettement européen pour financer des projets de relance dans les pays les plus en difficulté. C'est une bonne idée ?
Oui, mais il faut le lier évidemment aussi au débat sur la dette. D'abord, c'est une très bonne idée politiquement, parce que vous avez vu la montée du sentiment anti-européen dans un certain nombre de pays, en particulier en Italie, avec l'idée que l'Europe n'a pas fait ce qu'il fallait pendant cette crise, n'a pas soutenu les pays les plus en difficulté, qu'il n'y a pas d'Europe de la santé, qu'on a eu chacun nos règles. Hein, regardez ce qui se passe sur le déconfinement et l'ouverture des frontières, par exemple. Et donc tout ce qui montre la solidarité européenne a un intérêt politique majeur. L'intérêt financier, on est obligé de lier cette question à celle de l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Tant que la BCE, ce qu'elle fait cette année, achète la totalité des dettes publiques qui sont émises par les pays pour financer leur déficit public, il n'y a pas de problème de financement, y compris pour les pays les plus fragiles, qui sont sûrement aujourd'hui l'Italie et la Grèce, hein, donc dans les grands pays d'Italie. Donc quand l'Italie fait cette année un déficit public à peu près le même que le nôtre, hein, qui va être d'à peu près 9% du produit intérieur brut, mais que les émissions de dettes que l'Italie réalise sont achetées par la Banque Centrale Européenne, l'Italie n'a pas à convaincre un investisseur privé, un assureur allemand par exemple, d'acheter cette dette, et donc il n'y a pas de problème de financement, les taux d'intérêt ne montent pas, et donc le déficit public ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si la BCE ne revend jamais la dette qu'elle achète, cette dette en réalité, elle n'existe pas. Elle a été, elle est prise par la BCE, elle est conservée par la BCE, qui ne la remet jamais sur le marché. Donc on peut considérer que cette dette n'existe pas.
Le problème, c'est qu'on est absorbée par la Banque centrale.
Oui, et elle est remplacée par de la monnaie, en fait. Quand l'État français finance le chômage partiel, il émet une obligation qui est achetée par la Banque de France, pour le compte de la BCE. La Banque de France paye en créant de la monnaie. Et tant qu'on en reste là, ce qui a financé le chômage partiel, c'est de la création monétaire, c'est pas de la dette. Simplement, on n'a pas de visibilité sur la suite. C'est-à-dire qu'en 2020, on voit évidemment qu'il n'y a aucun problème de financement et qu'on peut aller à n'importe quel niveau de déficit public. D'ailleurs, on va sans doute aller plus haut encore que 9%. Mais 2021, que fait la BCE? Est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle arrête? Est-ce qu'elle diminue? On n'en sait rien. Elle n'en parle pas, c'est trop loin. Et il est très prudent pour les États de considérer que la BCE ne va pas faire ça de façon permanente. On ne va pas rentrer dans une situation... Ce que suggéraient certains économistes américains, ça s'appelait la théorie monétaire moderne, où les banques centrales, finalement, financent par la création monétaire n'importe quel déficit public pendant n'importe quelle période de temps. Donc certainement la BCE ne fera pas ça. Et donc il faut une position de repli au moment où la BCE arrête de le faire. Cette position de repli, c'est évidemment la mutualisation des financements au niveau européen. Parce que quand on fait ça, ce qui finance les besoins de l'Italie, c'est de la dette européenne et c'est pas de la dette italienne, donc c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus facile à produire, à émettre, c'est beaucoup moins cher en termes de taux d'intérêt. En gros, c'est 0% contre 2% aujourd'hui, ce qui fait une colossale différence. Voilà. Et donc c'est à la fois intéressant à partir du moment où la BCE est moins présente et important financièrement, évidemment politiquement c'est essentiel. Alors après il faut convaincre les pays, vous savez on parle des pays frugaux maintenant, et même oui. Certains disent radins mais disons frugaux, donc l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark et l'Allemagne de temps en temps qu'il faut faire ça. Il faut leur expliquer qu'il s'agit d'investissement. On ne va pas financer des dépenses publiques courantes avec ces financements européens. On va financer la transition énergétique, l'industrie du médicament, l'éducation, la requalification des salariés qui va être un problème majeur après cette crise, parce qu'il y a plein de secteurs qui vont licencier et il y a plein de secteurs qui vont chercher à embaucher. Donc il va falloir que des gens changent de métier. Et donc tout ça, c'est de l'investissement. Donc il n'y a aucun effet pervers de financer par des fonds européens des investissements. On ne va pas financer des trous budgétaires qui ne correspondent pas à des investissements utiles. Donc il faut expliquer ça aux pays du Nord et on va y arriver, je pense. Donc c'est très important et d'autant plus à nouveau que la BCE sera moins présente qu'aujourd'hui dans le futur.
Ouais, en dehors de la BCE, le débat divise aussi les économistes sur ces montagnes de dettes et la question de savoir s'il faudra les rembourser un jour ou dans 50 ans ou jamais. Patrick Artus.
Alors, pour l'instant, si la Banque centrale achète cette année une dette, ne la revend pas, et lorsque cette dette arrive à échéance, donc si elle achète une obligation à 10 ans de l'État français, normalement dans 10 ans, l'État français devrait rembourser la BCE. Mais si à ce moment-là, la BCE rachète une autre dette de l'État français à 10 ans pour le même montant, vous voyez que vous avez une dette qui est perpétuelle, puisqu'elle n'est jamais remboursée en réalité, elle est toujours renouvelée. Et comme la Banque de France, puisque là il s'agit de la Banque de France, verse ses profits à l'État français, elle rend à l'État français les intérêts que l'État français lui paye sur cette dette. Donc cette dette, elle devient perpétuelle et gratuite. Donc il n'y a aucun problème jamais de remboursement. Alors à nouveau, la BCE n'a pas signé un papier disant « dans 10 ans, je rachèterai une autre dette du même montant ». Ça ne l'a pas dit, donc on peut se poser la question de savoir si elle le fera vraiment. Si elle le fait, ce problème de remboursement de cette dette ne se posera jamais. Après, on peut aussi imaginer que par précaution, et en se disant que peut-être que la BCE finira par changer de politique dans le futur, l'État français pourrait aussi émettre de la dette extrêmement longue, que vous mentionniez. Si l'État français se finançait à 50 ans aujourd'hui, il paierait à peu près 0,7% de taux d'intérêt pendant 50 ans, ce qui permettrait d'avoir un coût extraordinairement faible pour financer des investissements qui, de toute façon, ont une rentabilité supérieure à 0,7%. Donc honnêtement, il n'y a pas de problème de remboursement. Je crois que c'est un faux débat. Que ce soit la BCE, que ce soit de la dette très longue finançant des investissements intelligents, il y a plein d'investissements intelligents à faire, je ne vois pas du tout le problème de remboursement.
Merci beaucoup Patrick Artus. 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Ça paraît dans quelques jours chez Odile Jacob.